Bonsoir, chers amis. Nous voici donc à notre troisième conférence sur Saint Jean Cassien. Dans la première, nous avions vu le contexte, un petit peu le contexte monastique du Proche-Orient. Dans la deuxième, nous avons focalisé progressivement sur la personnalité très originale de Saint Jean Cassien. Et nous avons vu sa relation avec Eva, que nous avons vu aussi comment il a relu en quelque sorte et modifié profondément Eva, comment aussi il a bénéficié des conseils, peut-être de l'aide spirituelle de personnages très importants, puisqu'il a vécu à Constantinople auprès de Saint Jean Chrysostome. Nous avons vu aussi qu'il était à Rome et qu'il était proche du pape. Et d'ailleurs, c'était un personnage très apprécié. Saint Jean Cassien était un personnage qui faisait le lien, en quelque sorte, entre l'Orient et l'Occident. Et le pape lui avait demandé, plus tard, de rédiger un ouvrage sur l'incarnation du Christ contre les Ariens, pas contre les Ariens, contre les Nestoriens, pardon, qui à l'époque se développait au Proche-Orient. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une œuvre de Saint Jean Cassien. Nous allons commencer par les institutions cénobitiques, qui est la première œuvre de Saint Jean Cassien. Puis par la suite, nous verrons les conférences. Les institutions cénobitiques ont été écrites entre 415 et 425 environ, alors que Saint Jean Cassien est, on peut dire, en pleine maturité, parce qu'il bénéficie d'une large expérience spirituelle. Il a vécu en Palestine, il a vécu en Égypte, il a été auprès de Saint Jean Chrysostome. Expérience qui inclut aussi une expérience ecclésiale, et ça c'est assez important. L'œuvre de elle-même est dédiée à Castor d'Apt, un évêque qui avait demandé la composition de cette œuvre à Cassien. Et le but de Cassien est assez clair. Pour Saint Jean Cassien, la vie monastique, ça doit permettre la réalisation de la vocation chrétienne. Pour lui, cette vocation chrétienne, c'est d'être, comme dirait saint Paul, le temple du Saint-Esprit. C'est donc une participation étroite à l'Esprit-Saint qui se réalise par l'édification d'un temple nouveau. Et il dit, non pas à l'aide de pierres inertes, mais en réunissant une communauté de saints hommes. L'inhabitation de l'Esprit dans le cœur du chrétien est un thème récurrent de Cassien. Et il insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas tant la chair corruptible que le cœur pur qui devient demeure de Dieu et temple de l'Esprit Saint, dit-il. Le cœur pur. Et déjà, nous avons ici une des notions clés de Saint Jean Cassien, la pureté du cœur. Cette pureté intérieure est fondamentale et on peut dire que c'est une préoccupation constante de Saint Jean Cassien. Cette pureté intérieure permet de voir Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous sommes donc dans un cadre vraiment profondément biblique, évangélique, et c'est une rupture dans une certaine mesure, avec l'aspect un peu abstrait et philosophique des vagues. L'adversaire, dit-il, ne se situe pas tant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas à redouter un adversaire extérieur, l'ennemi est enclos en nous-mêmes, il mène quotidiennement contre nous une guerre intestine. Le combat spirituel, voilà donc le sujet principal des institutions cénobitiques. Cette pratique, ce combat n'est pas un but en soi. On ne combat pas pour combattre, on n'acquiert pas des vertus pour acquérir des vertus, mais elle est subordonnée. Et ça, Saint Jean Cassien insiste toujours là-dessus, à l'acquisition de la pureté du cœur. Et comme il le dira plus tard dans les conférences, dans une phrase qui me semble très significative de sa pensée, on gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère. Et le profit que l'on retirerait de la lecture n'égale pas le dommage encouru pour le mépris d'un frère. Ce n'est donc pas l'acte externe qui lui importe, mais c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. C'est bien cette intériorité, cette pureté du cœur qui est son souci permanent. Cassien, dans son ouvrage, Les Institutions cénobitiques, va rechercher donc une méthode, une technique qui va être fondée sur une pratique. Il a bien sûr été le témoin de la vie des moines, en particulier des moines égyptiens qu'il a bien connus, mais faisant preuve d'un grand discernement, il évite deux pièges. L'un qui consisterait à reproduire mécaniquement le modèle, sans tenir compte des circonstances dans lesquelles il se situe, et l'autre qui consisterait à innover et à rompre avec la tradition. Comme il le dit, bien sûr, je prendrai sur moi d'introduire de la modération dans cet opuscule, afin d'adapter un peu à l'aide des institutions en vigueur en Palestine et Mésopotamie, ce que, selon la règle des Égyptiens, j'aurais reconnu impossible ou trop rude et austère pour ces régions. Donc, aussi un grand discernement. Dans le même esprit, il ne vise pas à épater le lecteur. Et là, on sent une critique sous-jacente d'un certain nombre d'écrits qui circulaient à l'époque et qui présentaient les exploits ascétiques de grands ascètes, qui sont tout à fait vénérables, mais qui ne cherchaient pas, en fait, à édifier le lecteur. Il dit que l'expression de ces grands exploits ascétiques n'apporte rien de plus au lecteur que de l'émerveillement. Ce n'est pas de l'émerveillement dont il s'agit ici. Ce n'est pas cet émerveillement philosophique dont on nous parle de temps en temps. C'est l'édification chrétienne, ce qui est tout à fait autre chose. L'édification chrétienne, faire progresser les gens, faire progresser les moines. Il met en avant des instituta, des institutions, des principes fondateurs qui, sans copier servilement, ne doivent pas non plus innover et rompre avec la tradition. Ce lien avec la tradition est pour lui fondamental. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par goût de la tradition, ce n'est pas parce qu'il est traditionnaliste ou je ne sais pas quoi, c'est parce que c'est un facteur, c'est un moyen de discerner. En effet, dit-il, tout ce qui, chez les serviteurs de Dieu, est retenu par un seul ou par une minorité, mais n'est pas possédé universellement par tout le corps de la fraternité, tout cela est superflu et prétentieux, et doit pour cette raison être jugé mauvais et comme une manifestation de vanité plutôt que de vertu. Dans son comitorium, Vincent de Lérins expliquait: dans l'Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui a été cru partout, toujours et par tous. La catholicité, c'est pas être partout, pas seulement, mais c'est aussi l'ensemble de la doctrine et c'est aussi son antiquité. Et ce critère de catholicité, comme il l'entend, est un facteur de discernement qui permet d'écarter ce qui ne doit pas être retenu, mais qui peut être considéré comme un prétentieux, comme il dit, et être jugé mauvais. Selon deux grandes phases de la vie ascétique, telles qu'elles ont été établies par Évagre, il distingue la première phase de la vie du chrétien, qui est ce qu'il appelle la scientia actualis, c'est-à-dire, on pourrait dire, la phase de l'action, la phase de la pratique, c'est la pratique et des vagues, puis la scientia, la vita spiritualis, qui renvoie à la théoria, à la contemplation des vagues. Il y a donc deux phases dans la vie spirituelle. La première phase est une phase, pourrait-on dire, de purification. On en a déjà parlé assez longuement, je vais donc pas y revenir, mais cette phase est absolument fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir de des grandes considérations philosophico-religieuses si ce n'est pas basé sur une pratique. Et ça aussi, c'est une des constantes de la pensée de saint Jean Cassien. Il le dira d'ailleurs, « Je n'ai jamais rien enseigné que je n'ai pas pratiqué. » La pratique est absolument fondamentale. Et il dira même d'une façon plus percutante encore, on ne peut pas enseigner la spiritualité. Et je crois qu'il a raison. Parce que la spiritualité n'est pas quelque chose d'abstrait. La spiritualité est quelque chose de vécu par une personne au travers de son histoire. On peut évidemment parler de grands principes ou suivre la voie des saints, essayer de comprendre un petit peu cette spiritualité, mais on ne peut pas l'enseigner de façon abstraite. Et par exemple, Isaac le Syrien disait « Enseigner la spiritualité, c'est un peu comme si vous dessiniez une rivière pour un homme qui est assoiffé. » Donc, dans ces deux grandes phases de la vie ascétique, il va s'attacher à la première phase. Cette phase concerne l'homme extérieur. On comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre vie extérieure, nos actions extérieures. Et il va se répartir son enseignement en 12 livres des institutions. Les premiers livres 1 à 4 concernent l'habit monastique et l'ordre à suivre pour les offices nocturnes et diurnes. Cette partie se termine par le livre 4 qui contient un magnifique discours de prise d'habit qui est un peu un condensé de la spiritualité de saint Jean Cassien. Saint Jean Cassien était très préoccupé par son souci pastoral, par la nécessité d'éduquer, de former, d'édifier les gens, les moines autour de lui. Il savait la situation était difficile. Il considérait que les mœurs gauloises, les monastères gaulois étaient souvent relâchés et désordonnés. Il savait aussi que des écrits circulaient qui mettaient en avant surtout des grands exploits ascétiques. Donc il a une marge de manœuvre, si vous voulez, qui est assez particulière. Il sait aussi qu'il n'y a peu de pères spirituels. Et donc, il va essayer de faire jouer à ses écrits un rôle d'enseignement, d'édification au maximum de pères spirituels. Et ça sera surtout sensible dans les conférences. Il sait aussi qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il craint de mourir, il le dit, sans avoir terminé son œuvre. Ce qui fait qu'il divisait son œuvre en deux parties. Il mettait dans les conférences peut-être des choses liées à la vie contemplative, mais il va quand même introduire un petit peu dans les institutions cénobitiques parce qu'il se sent un peu pressé par le temps. Donc, dans cette institution cénobitique, vous avez 12 livres. Les livres 1 à 4 qui vont traiter de la vie monastique sous interprétation symbolique, qui remonte à toute une tradition et qu'on trouve aussi chez Evagre. Il décrit en détail d'ailleurs la vie des moines égyptiens, non sans faire preuve de discernement. Car la dureté de l'hiver, dit-il, ne permet pas que nous nous contentions de sandales, d'une tunique courte ou d'une seule tunique, et se couvrir d'un tout petit capuchon ou porter une peau de chèvre susciterait la dérision plutôt que l'édification. Le livre 2 donne des informations importantes sur le dépouillement total des moines. Cassien prévient qu'il donne là des indications qui sont tirées de différentes sources, pourrait-on dire, de pratiques aussi bien de monastères du Delta qui sont semi-anachoritiques que de pratiques plus cénobitiques, les pratiques de Pacôme et des monastères pacomiens. On a déjà parlé lors de la première conférence. Trois traits dominent. Le renoncement à tous les biens. Renoncement radical. L'obéissance envers tous. Un travail pour se procurer son pain selon le commandement de l'apôtre qu'il cite. Le livre expose aussi les coutumes des Égyptiens concernant les célébrations du soir et de la nuit. Elles ne comprennent que 12 psaumes, suivis de 2 lectures, l'une tirée de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament, selon une règle très ancienne transmise par un ange, selon la tradition. Pour Cassien, cette règle, ce mode de vie tout entier, a une origine apostolique. C'est le mode de vie des premiers chrétiens, c'est le mode de vie de la communauté apostolique. Ils ne mangeaient et buvaient pas tant ce qui leur plaisait que ce qui leur était nécessaire, et encore avant le coucher du soleil, pas avant le coucher du soleil, pardon, pour associer le temps de la lumière aux méditations spirituelles et le souci du corps à la nuit. Et moi-même, en traduisant des textes grecs, de communauté grecque de Cappadoce, eh bien, il y a des Grecs de Cappadoce, des chrétiens grecs de Cappadoce qui respectaient cette règle. Encore à une époque contemporaine, puisque c'est le père Païsios qui en parle, dans son entourage. C'était la règle de l'Enati, ce qu'on appelle l'Enati, c'est neuf, c'est-à-dire le moment des vêpres, en fait, et donc on ne mangeait pas avant les vêpres. Quant à la prière, il met l'accent sur 2 points. Les prêtres estiment préférable de faire des prières brèves mais fréquentes. Fréquentes, afin que nous puissions, en priant Dieu plus souvent, adhérer à lui. Brèves, pour éviter par ce moyen les traits dont le diable nous attaque et dont il s'efforce de nous accabler, surtout au temps de la prière. Et on sait qu'il va promouvoir la prière avec des versets de psalmiques, qu'on avait appelé d'ailleurs la prière monologique, et qui va devenir plus connue sous le nom de prière de Jésus. Il y a toute une évolution dans ce sens-là. Il développe un enseignement profond sur le lien entre le développement de la spiritualité et le travail. Car le travail contribue à la pureté de l'esprit. Dans les mouvements impurs du cœur et dans le flot incessant des pensées, il jette comme une ancre bien accrochée et immobile le poids de leur travail. Cette ancre rend l'esprit attentif à la seule méditation spirituelle et à la garde des pensées, et loin de laisser s'abandonner n'importe quelle mauvaise suggestion, le protège au contraire de toute pensée superflue et inutile. De la sorte, on ne peut pas distinguer lequel dépend de l'autre. Est-ce à cause de la méditation spirituelle qu'il pratique un incessant travail manuel, ou est-ce à cause de l'assiduité au travail qu'il progresse dans l'esprit et acquiert une si grande lumière de science? Dans 2.14. Vous voyez là qu'il y a une espèce de résolution d'un problème qu'on avait soulevé lors de la première conférence, à savoir du lien entre la prière et le travail. dans le milieu syriaque, on avait dissocié en quelque sorte prière et travail. Il y avait ceux qui priaient, il y avait ceux qui travaillaient. Et voilà que la résolution en quelque sorte de ce problème s'est faite dans les milieux égyptiens, et en particulier par la méditation de l'écriture et la méditation du verset, qui permettait aussi à la personne de travailler, de continuer à travailler, un travail simple, parce que les travaux réalisés par les moines étaient des travaux simples. C'était surtout des travaux comme le tissage, comme le tressage de corbeilles, des cordes, des sandales, des choses comme ça. Donc un travail qui ne demandait pas trop de concentration en fait, un travail assez mécanique qui permettait d'associer la prière et le travail. Et le travail permettait à la prière d'être encore plus profonde en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a ce lien entre prière et travail dans son œuvre. Cette réflexion se prolonge dans le livre 3 des institutions, et de fait, on voit que par ce lien entre prière et travail, les Égyptiens passent tout le jour dans la méditation, c'est ce qui fait qu'ils n'observent pas les heures monastiques. Les moines ascétaient récitaient 12 psaumes pour les vêpres, à nouveau au cours de la nuit. Ces offices étaient privés en semaine et communautaires les samedis et dimanches. Ils restaient assis à travailler, même lors des liturgies communes, s'interrompant de temps en temps pour se prosterner. Ils ne suivaient pas les heures monastiques comme les Gaulois. Chez ceux-ci, c'est-à-dire chez les Égyptiens, les offices que nous sommes contraints par l'avertissement de l'excitateur à accomplir pour le Seigneur à des heures et intervalles distincts, spontanément, on les célèbre avec assiduité durant tout le temps du jour en y joignant le travail. C'est-à-dire qu'ils considéraient que les Égyptiens étaient tout le temps en train de célébrer un office. Ce qui est offert sans interruption, dit-il, a plus de valeur que ce qui est accompli à temps fixe. Le livre 4 constitue un petit sommet dans l'ouvrage. Il concerne l'instruction des novices ou renonçants. Il met le discours d'instruction des novices dans la bouche de l'abba Pinouf, qu'il a connu à Bethléem, qui est donc est venu à Bethléem pour faire un séjour en Terre Sainte, et qui a incité Cassien à se rendre par la suite en Égypte. Pour lui, la vie monastique, c'est bien sûr la réalisation de la vie chrétienne. Et qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? C'est suivre le Christ crucifié et glorifié. Il reprend les pratiques des monastères du Delta, ainsi que des monastères pacomiens. Le novice commence par rester 10 jours à la porte du monastère. Une fois admis, il est dépouillé de ses vêtements et revêtu de ceux du monastère. Alors commence son instruction. Il reste pendant 1 an à la porte du monastère à s'occuper des autres, tout en recevant un enseignement de l'ancien. L'objet principal de l'enseignement de l'ancien, c'est de vaincre ses volontés. Il veillera toujours à lui commander exprès ce qu'il aura remarqué être contraire à son tempérament. Celui qui n'a pas appris à vaincre ses volontés ne pourra jamais éteindre la colère, la tristesse ou l'esprit de fornication, ni non plus garder une véritable humilité du cœur, ni rester sans cesse uni dans une solide concorde. Le renoncement, dit-il, n'est rien d'autre que la marque de la croix et la mort à soi-même. Ab renunciatio nil aliud est, quod crucis ac mortificationis indicium. Il faut conformer toute notre vie au modèle qu'il nous a donné lorsqu'il était attaché à la croix, afin que, selon la parole de David, perçant notre chair par la crainte du Seigneur comme par des clous, notre volonté et tous nos désirs ne soient plus attachés à notre concupiscence, mais attachés à sa mortification. Mais, diras-tu, comment l'homme peut-il porter continuellement sa croix? Notre croix, c'est la crainte du Seigneur, là où elle nous a attachés. De même, faut-il la crainte du Seigneur nous tenant attachés à la croix, être mort à tout cela, c'est-à-dire non seulement aux vices charnels, mais même aux éléments du monde, ayant tourné les yeux de l'âme fixés sur le lieu où nous devons à tout moment aspirer d'aller. Cette vision eschatologique, cette vision de la présence du ciel, en quelque sorte, est permanente chez Cassien. Le degré supérieur de l'humilité sincère, c'est l'amour de charité, ce qu'on appelle l'agapé. On n'agit plus par crainte du châtiment, mais par l'amour du bien lui-même. Il y a donc un enchaînement des vertus. C'est un thème ancien que l'on retrouve déjà, par exemple, chez Évagre, et je pense qu'on pourrait le trouver ailleurs. Le principe de notre salut et de notre sagesse est, selon l'Écriture, la crainte du Seigneur. Vous savez qu'on trouve à plusieurs endroits, dans l'Ancien Testament, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. On trouve ça d'ailleurs aussi dans les psaumes. De la crainte du Seigneur naît une componction salutaire. De la componction du cœur procède le renoncement, c'est-à-dire la nudité et le mépris de toute richesse. La nudité engendre l'humilité. De l'humilité vient la mortification des volontés. Cette mortification fait périr tous les vices. Le rejet des vices permet aux vertus de pousser leurs fruits et de croître. Cette fécondité des vertus donne la pureté du cœur. Par la pureté du cœur est possédée la perfection de l'amour de charité, l'agapé apostolique. Cette sagesse n'a rien à voir avec la sagesse du monde, dit-il. Et Cassien reprend le commandement de l'apôtre. Deviens fou en ce monde afin d'être sage. Parole qui est inspirée par 1 Corinthiens 3, 18. Que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie pour Dieu. 4, 14. Après, on va parler un petit peu de ce très beau discours adressé aux novices. Nous arrivons à la deuxième partie, en quelque sorte, de cet ouvrage, qui contient les livres 5 à 12. Ces livres traitent des 8 vices principaux. Ces 8 vices principaux ont une longue histoire. Ils ont déjà été repérés et ordonnés comme tels par Évagre le Pontique, et ils vont être repris par pratiquement tous les pères, et en particulier les pères de la Philokalie. Vous avez dans le livre, par exemple, de Jean-Claude Larcher, « La thérapeutique des maladies spirituelles », qui a été publié au CERF, et qui, je crois, a été traduit aussi en roumain. Vous avez une analyse de tous ces vices. Et les pères n'ont pas cessé d'approfondir, en quelque sorte, l'énumération des vagues, avec beaucoup de discernement. Le premier, c'est la gastrimargie, c'est-à-dire la concupiscence du manger, pourrait-on dire. C'est la recherche du plaisir de manger. Voilà, l'intempérance, la nourriture. Le deuxième, c'est la luxure, qui est un usage pathologique que fait de l'homme de sa sexualité. Le troisième, c'est la philarguerie ou l'amour de l'argent. Le quatrième, c'est la colère. Le cinquième, c'est la tristesse. Là, on peut repérer d'ailleurs que, si vous voulez, quand on voit les différentes parties de l'âme dont je vous ai parlé, et dont je vous ai donné un tableau aussi, je vous conseille de vous y référer, vous le trouverez dans la deuxième conférence. On voit que les passions de l'âme sont ordonnées suivant les parties de l'âme. Nous passons des passions les plus grossières aux passions les plus subtiles. De celles qui concernent la partie désirante de l'âme jusqu'à celle qui concerne la partie intellectuelle de l'âme. Donc il y a une organisation de tout ça, et je vais proposer un tableau qui est disponible sur le site. Il faut voir aussi que ces passions, si vous voulez, ne sont pas mauvaises en soi. Ce qui est mauvais, c'est leur usage lorsqu'il est détourné de sa fin. Par exemple, il y a une bonne colère, pourrait-on dire, la colère contre le mal. Il y a une bonne ardeur, l'ardeur à faire le bien. Par exemple aussi la tristesse qui vient après la colère. Vous avez une bonne tristesse, c'est lorsque l'homme prend conscience de son éloignement de Dieu, finalement, et de ses péchés. C'est une tristesse qui le pousse en avant, qui le fait progresser. Et c'est ce que les pères ont appelé le pentos, c'est-à-dire le deuil qui conduit à la joie. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Saint Jean Climat qui est assez percutante. Il dit, oui, on ne pourra pas reprocher aux chrétiens de ne pas être des théologiens, de ne pas être ci, cela, mais on pourra leur reprocher de ne pas avoir vécu dans le pentos. C'est-à-dire avec cette conscience de leur éloignement de Dieu et aussi de leur péché. La mauvaise tristesse, c'est celle qui est en quelque sorte négative, qui est destructrice, et qui est centré sur la privation de biens matériels, par exemple, ou la non-satisfaction de désirs, ou encore le fait d'avoir mal ressentir une humiliation personnelle. Vient ensuite la cédie. La cédie est quelque chose de tout à fait particulier. Eva me donne une bonne description de la cédie. Il dit, voilà, vous avez un moine qui est dans sa cellule. Alors il est en train de lire, il lit un ouvrage ascétique, et puis bon, il commence vraiment à s'ennuyer, alors il regarde combien il y a de pages encore à lire jusqu'à la fin du livre, il pose le livre, il court à la fenêtre de sa cellule pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient le voir, etc. Donc la CD, c'est une espèce d'effondrement intérieur. On n'a plus le goût, on n'a plus l'envie de pratiquer les lectures ou de prier, etc. On ne voit plus l'intérêt. C'est une forme un peu de dépression, si vous voulez, au sens religieux du terme. Là, ensuite vient la kénodoxie ou simplement la vaine gloire. La vaine gloire, là nous entrons dans les passions les plus subtiles. Parce que ça, ce sont des choses terribles. Parce que ça, la vaine gloire, si vous voulez, les deux dernières passions, la kénodoxie, la vaine gloire et l'orgueil, sont liées entre elles. Il n'y a pas de différence de nature, mais il y a une différence de degré. Et on peut avoir une vaine gloire pour tout, pratiquement. C'est de la vanité. On peut être vaniteux parce que l'on est riche, on peut être vaniteux parce que l'on est beau, on peut être vaniteux parce que on a tel don ou tel autre, ce qui conduit évidemment aussi à mépriser un peu les autres, à les prendre un peu de haut, etc. Et puis alors, on peut aussi, et c'est là où ça devient de plus en plus dangereux, c'est qu'on peut être vaniteux parce que l'on a des qualités spirituelles. Vous voyez ? Et le lien se fait presque automatiquement avec l'orgueil. Et l'orgueil, qui est une vaine gloire à un niveau supérieur, c'est déjà le fait de se prendre pour quelqu'un d'important, de croire qu'on est supérieur aux autres, qu'on peut juger les autres, chercher à s'élever au-dessus des autres, les mépriser, et ça peut aboutir à une forme encore plus grave, c'est l'orgueil par rapport à Dieu. Et ça, c'est Satan. Vous voyez que la concupiscence du manger, qui est le premier de ces vices, à l'orgueil, on passe des passions les plus primaires, peut-on dire, que sont la concupiscence du manger, la luxure, à des formes beaucoup plus subtiles. Et il est certain que pour les moines du désert, ce sont les formes subtiles qui étaient les plus dangereuses. Parce qu'ils avaient coupé un peu avec le reste, et donc ils étaient plus susceptibles d'être tentés par ces passions subtiles. Ces passions, si vous voulez, dans la conception antique, en fait, ce sont des démons. Ce sont des démons qui s'introduisent de l'extérieur dans la personne humaine, des esprits. Et d'ailleurs, Cassien reprend le terme spiritus. Et vous avez toute une littérature aussi du moine qui est comment gérer la passion. Et en fait, la meilleure gestion de la passion, c'est la prière. C'est-à-dire d'ailleurs d'éviter de discuter avec la passion ou de l'affronter, mais de concentrer sa prière, et en particulier sur la prière brève, monologique, et en particulier sur la prière de Jésus. Cette psychologie qui est extrêmement fine parfois et subtile des pères court à travers toute la philokalie. Et vous allez avoir des textes de Cassien, justement, et en particulier ces textes-là qui concernent les passions, qui vont être introduits dans la philokalie grecque. Et je crois que Cassien est le seul spirituel occidental à y avoir été inclus. En Occident, cela va avoir d'ailleurs une certaine suite, puisqu'on va extraire l'ascédie, qui est vraiment typiquement monastique, et que ça va devenir les sept péchés capitaux. Grégoire le Grand, donc, dans la tradition latine, vous allez avoir les sept péchés capitaux. Pour Cassien, donc, cette lutte, ce combat spirituel est fondamental, car il détermine l'évolution ultérieure de la spiritualité du moine. Et donc, dans ce combat, le moine doit faire preuve de discernement. Pour tout, il n'est guère facile d'observer, dit-il, une règle uniforme pour le jeûne. La résistance physique n'est pas la même chez tous. Et contrairement à d'autres vertus, celle-ci ne s'exerce pas par la seule austérité de l'âme. Une résistance physique inégale, l'âge ou le sexe, peuvent faire varier avec le temps la quantité et la qualité de la nourriture. Mais la vertu intérieure de continence impose à tous la même obligation de se mortifier. Donc, voilà, ça c'est typiquement cassien. Mortification, mais ce n'est pas la même chose pour tous, en fonction des capacités de chacun. Et, dit-il, la faiblesse de la chair n'empêche pas la pureté du cœur. Même si vous êtes faible, vous pouvez avoir le cœur pur. Ou vous comprenez la nourriture selon le besoin de la santé, et non selon le désir que l'on reste sur sa faim et qu'on ne s'accorde avec un strict discernement que la quantité de nourriture jugée suffisante pour vivre et non celle dont on a envie. Donc, limiter un petit peu sa nourriture à ce qui est nécessaire. Là aussi, ce qui compte, ce n'est pas tant l'acte extérieur que ses conséquences pour l'homme intérieur. Pour conserver l'intégrité de l'esprit et du corps, la seule abstinence de nourriture ne suffit pas, si n'y sont jointes les autres vertus de l'âme. Il faut donc apprendre l'humilité par la pratique de l'obéissance et par un travail qui brise intérieurement et fatigue le corps. Ce n'est pas assez d'éviter la possession de l'argent. Il faut donc en extirper radicalement le désir. Il faut mater l'emportement de la colère, surmonter l'abattement de la tristesse, mépriser la vaine gloire et fouler aux pieds la morgue de l'orgueil. Par un constant souvenir de Dieu, il faut réfréner le vagabondage des pensées toujours en mouvement et ramener à la contemplation de Dieu notre cœur qui se dissipe en de mauvaises pensées à chaque fois que l'ennemi, dans sa ruse, s'est insinué en nous, cherchant à priver l'esprit de ce regard. Et on ne peut pas prétendre, pour Cassien, s'engager sur la voie spirituelle sans commencer par la lutte la plus élémentaire. Il le dit, il ne pourra jamais neutraliser le feu de la concupiscence, celui qui n'a pu réfréner les désirs de son ventre. La chasteté de l'homme intérieur se discerne à la perfection de cette vertu. Crois bien, en effet, que ne pourra jamais lutter contre des adversaires plus farouches celui que, dans un combat facile, tu as vu dominer par un ennemi plus faible. Car une est la substance de toutes les vertus, même si elles semblent divisées en de nombreuses espèces différentes. Une est la substance des vertus, mais elles ne s'incarnent pas toutes dans un seul homme. Et ça, c'est aussi une caractéristique de Cassien. Et il va expliquer, par exemple, qu'un homme éprouvé, qui aura mené une vie cénobitique, qui aura acquis le discernement, peut se rendre auprès de plusieurs spirituels pour en retirer un enseignement. À ce propos, saint Jean Cassien cite Antoine. Ainsi, tandis que l'on trouve en l'un la sagesse, en un autre la justice, en un autre la sainteté, en un autre la douceur, en un autre la chasteté, en un autre l'humilité, membre par membre, c'est le Christ qui est maintenant divisé dans l'ensemble des saints, mais tous convergent dans l'unité de la foi et de la vertu. Ils expriment l'homme parfait qui accomplit la plénitude de son corps dans l'harmonie et l'originalité de chacun de ses membres. Car bien que la fin de notre religion soit unique, pourtant les états de vie par lesquels on tend à Dieu sont divers, comme on le traitera plus abondamment dans les conférences des anciens. Donc déjà, il fait un lien entre cette première œuvre, les institutions cénobitiques, qui s'attachent donc à la première phase de la vie spirituelle, avec les conférences qui s'attachent à la deuxième phase de la vie spirituelle, où il va montrer différents spirituels qui ont acquis, on peut dire, une certaine plénitude dans différentes vertus. La présence d'un père spirituel est indispensable à tous les niveaux de la vie spirituelle. Si, dans un premier temps, les institutions proposent une méthode ascétique valable pour tous, dans un deuxième temps, un moine exercé pourra compléter sa formation et s'orienter éventuellement vers une vie érémitique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez Cassien, comme dans toute la spiritualité orientale, d'opposition entre vie cénobitique et vie érémitique. Mais il y a simplement, ce qui relève pratiquement du bon sens, le fait de considérer qu'on ne peut pas s'engager dans une vie érémitique si on n'a pas déjà pratiqué une vie communautaire. Le désert, dit-il, ne peut être recherché que par les moines parfaitement purifiés de tous leurs vices et qui s'étant corrigés de tous leurs défauts en vivant au milieu d'autres frères ne le recherchent pas comme un refuge à leur pusillanimité, leur lâcheté, si vous voulez, mais de leur désir d'atteindre à cette contemplation supérieure à laquelle seuls les parfaits peuvent atteindre dans la solitude. C'est-à-dire qu'il s'agit là du centre de la vie spirituelle, qui est la contemplation, et la contemplation qui est donnée dans la prière. La vie érémitique permet peut-être d'arriver à un niveau de contemplation plus élevé. Mais la pratique est absolument incontournable. Comme il le dit, « Jamais je n'ai fait ma propre volonté, ni n'ai enseigné à quelqu'un, je vous ai déjà dit tout à l'heure, ce que d'abord je n'ai pas pratiqué moi-même. » Cette pratique est à la base de la vie spirituelle. Cette pratique est la condition de la pureté du cœur, car c'est une purification qui permet aussi une compréhension profonde des Écritures. Abba Théodore homme d'une très grande sainteté et de science, non seulement dans une vie active, c'est-à-dire dans la vie pratique, c'est-à-dire dans la purification des passions, la vita actualis, mais aussi dans la connaissance des Écritures, qu'il ne devait pas tant à une lecture studieuse ou à la littérature du monde qu'à la seule pureté du cœur. C'est la pureté du cœur qui permet la compréhension en profondeur des Écritures. Le moine qui désire atteindre à la connaissance des Écritures ne doit jamais dépenser sa peine au livre des commentateurs, mais plutôt tendre toute l'activité de son esprit et toute l'intention de son cœur à la purification de ses vices charnels. Ceci chassé, aussitôt les yeux du cœur, le voile des passions levé, contemple naturellement les mystères des Écritures. Et il emploie une expression que j'aime beaucoup, sacramenta scriptorum, les sacrements des Écritures. Les Écritures sont l'habit du Christ, en quelque sorte, c'est les habits du Logos. Et la transfiguration du Christ, vous savez, c'est aussi la transfiguration de ses vêtements qui a été interprétée par Maxime le Confesseur comme une signification du sens profond, une révélation du sens profond de l'Écriture. Les Écritures sont un sacrement, mais ce sacrement ne peut être vraiment reçu que par un esprit purifié. La plupart se précipitent à interpréter les Écritures sans aucunement appliquer à purifier leur cœur. Alors, en raison de la variable épaisseur ou impureté de leur cœur, ils sentent des choses diverses, contraires à la foi et contradictoires entre elles. Ils ne peuvent comprendre la lumière de la vérité. Dans cette idée de purification profonde, ils distinguent aussi un cas particulier qui est le problème de la sexualité. Et ils distinguent la continence sexuelle, enkrates, et la pureté ou chasteté, agnos. Si la première peut être le résultat des efforts du moine, la seconde est un bienfait de Dieu et un don spécial, c'est un charisme quasiment. C'est sortir de la chair tout en demeurant dans le corps. Il faut nous appliquer avec une plus grande ardeur, non seulement à la continence du corps, mais aussi dans une incessante supplication à la contrition du cœur, afin que la fournaise de notre chair, que le roi de Babylone ne cesse d'alimenter des brandons de nos pensées charnelles, soit éteinte par la rosée de l'Esprit-Saint. Il est impossible, dit-il, de posséder la science spirituelle sans une chasteté complète. Les dons sont divers, et la même grâce de l'Esprit-Saint n'est pas accordée à tous, mais à chacun est offerte celle dont il s'est rendu digne par son application et son activité. Et ça aussi, c'est une caractéristique de Cassien, et c'est une distinction par rapport à Augustin. Tout en reconnaissant que la nature humaine blessée a besoin du secours divin, Cassien souligna aussi que l'homme a encore en lui la capacité de faire le bien, alors que pour Augustin, ce n'est pas le cas. Tout ceci, dit-il, je ne le dis pas pour accabler notre condition naturelle, mais afin de démontrer que parmi ces mouvements que nous ressentons, les uns sont greffés en nous pour notre utilité, tandis que les autres s'introduisent de l'extérieur par notre négligence et un mauvais usage de notre volonté. Les mouvements intérieurs sont utiles pour nous, ceux qui sont extérieurs sont néfastes si notre volonté les traite mal. Ça, c'est une idée aussi profondément patristique. C'est-à-dire que toute mauvaise action est précédée par une mauvaise conception ou une mauvaise idée, si vous voulez. Tout acte est précédé par une idée de cet acte. Et que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir afin que l'acte soit bon. Ils disent que personne ne peut être totalement purifié de ses vices charnels s'il n'a compris que toute sa peine et ses efforts ne peuvent suffire à atteindre une si grande perfection, et s'il ne reconnaît pas moins par l'enseignement reçu que par le sentiment intérieur et la force de l'expérience qu'elle ne peut être atteinte que par la miséricorde et le secours de Dieu. Et là aussi, l'affirmation de Cassien. Donc on voit que l'accusation qu'on lui a faite d'être semi-pélagien est complètement fausse. Jamais, en effet, le labeur de l'homme ou l'industrie de l'homme n'égalera le don divin que seule la miséricorde divine accorde à celui qui le désire. Nous ne pourrons en aucune façon élever l'édifice des vertus dans notre âme si d'abord nous établissons comme fondation dans notre cœur une véritable humilité capable de soutenir le fait de la perfection et de la charité, fondée en nous sur l'amour du Christ, et sans en accepter franchement et avec un cœur simple le joug de l'obéissance, au point de n'avoir plus d'autre volonté en nous que le commandement de là-bas, de l'abbé, du père spirituel. Pourra le mettre en pratique celui-là seul qui s'estime non seulement mort à ce monde, mais même insensé et fou, accomplissant sans discuter tout ce qui lui sera commandé par les anciens, le considérant comme sacré et venant de Dieu. Nous jugeant inférieur à tout le monde, nous souffrirons avec une grande patience tous les traitements des hommes. Ces mots, non seulement nous les supporterons sans difficulté, mais ils nous paraîtront légers et sans importance si nous gardons constamment présent à l'esprit le souvenir de la passion de notre Seigneur et des souffrances de tous les saints. La pensée de Cassien est tout entière tendue vers le royaume. Votre but consiste en la pureté du cœur, et vous avez pour fin la vie éternelle. Parlant ailleurs de ce but, le bienheureux apôtre emploie le terme même d'une façon significative. Oubliant ce qui est derrière moi, je me porte de tout moi-même en avant et cours droit au but vers la récompense à laquelle le Seigneur m'a appelé d'en haut. Le grec est plus clair et plus clair. Il porte kataskopon dioko, dit Cassien. Je cours kataskopon en me dirigeant vers le but. Comme si l'apôtre disait, c'est en poursuivant ce but d'oublier ce qui est en arrière, c'est-à-dire les vices du vieil homme, que je m'efforce de parvenir à ma fin, qui est la céleste récompense. Je vous remercie.
Moi, j'aurais une question. Donc, au début, vous avez dit, en reprenant ce que Saint Jean Cassien nous enseigne, il est notre adversaire, il est à nous, il mène une guerre à nous. En même temps, un peu plus tard, quand on parle des huit vices principaux, on dit que ces passions, c'est aussi des démons qui viennent de l'extérieur. Donc, on peut dire d'une certaine manière que, je ne sais pas comment expliquer alors que d'un côté, il dit notre adversaire, c'est à nous, et de l'autre côté, les vices viennent de l'extérieur.
Oui. C'est-à-dire que, effectivement, le vice vient de l'extérieur. Mais c'est nous qui le traitons et qui soit le laissons à l'extérieur, soit le faisons rentrer en nous. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le rôle, en quelque sorte, de discernement du moine, ça va être comment affronter la pensée. Et ils vont distinguer toute une gradation, en quelque sorte. Première, l'attaque de la pensée, l'acceptation de la pensée, la mise en pratique de la pensée, etc. C'est-à-dire que vous avez une appropriation à ce moment-là de la pensée du mal. Et que ce mal, à ce moment-là, il est en nous. Il ne peut être en nous que si nous acceptons finalement qu'il y soit. Le problème, si vous voulez, est un peu compliqué parce que nous avons aussi une nature humaine qui est blessée. Et le fait qu'elle soit blessée fait que nous sommes plus facilement sollicités. Et là où on y reviendra, parce que c'est assez subtil, où Cassien va intervenir, c'est qu'il va expliquer qu'il y a une synergie, une action commune de la volonté humaine et de la grâce divine. C'est cette synergie qui est en l'homme, en quelque sorte, et c'est elle qui va, en quelque sorte, le guider. Et que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais qui repose sur un fait quand même qui est fondamental pour Cassien, c'est que l'homme a la possibilité de choisir. Et ça, c'est quelque chose que tous les pères vont, sur quoi tous les pères vont insister. Ils vont même dire, si vous voulez, que c'est un élément, par exemple pour certains pères, lorsque on dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien on va dire que c'est parce qu'il est libre. Donc il y a cette liberté intérieure, ce choix qui est quand même au centre de l'être humain et qui fait qu'il reste quand même une capacité de réaction qui est possible. Alors que pour saint Augustin, ça n'existe plus. L'être humain est complètement corrompu. Et la grâce est complètement gratuite. Mais ça, on verra ça plus tard, si vous voulez, parce que c'est la conférence numéro 13, c'est assez subtil. Et...
J'avais aussi une question sur l'obéissance. Parce que, effectivement, saint Jean Cassien, parce que vous avez dit, parle beaucoup de l'obéissance et de l'humilité. Il parle pour les moines, mais peut-être il s'adresse aussi à ceux qui sont dans le monde. Est-ce que, parce que c'est l'obéissance envers tout, envers tous, et puis l'humilité, se juger inférieur à tout homme. Pour les moines, obéir dans la vie monastique, donc c'est très important, on obéit dans son père spirituel, à son égoumène, ainsi de suite. Mais est-ce que dans le monde, on peut dire qu'on peut obéir, parce que je ne sais plus, j'ai lu, mais le diable, je ne sais pas, il peut agir aussi par les autres, hommes, faire mal, comme vous dites, il y a des tentations, est-ce qu'il faut obéir vraiment à tout? Je ne sais pas.
Écoutez, je ne suis pas un père spirituel, d'abord. Ouais. Il faut quand même le dire. Ensuite, je comprends très bien ce qu'il veut dire pour les moines. C'est la renonciation, c'est un lieu commun des moines, c'est renoncer à sa volonté propre. C'est ce qui est le plus difficile finalement à réaliser. Maintenant, je crois, si vous voulez, que ça peut être aussi réalisé par des laïcs. Mais que là, il faut faire vraiment preuve de discernement, et que c'est pour cela aussi qu'on a besoin de pères spirituels. Je crois, si vous voulez, que dans la vie spirituelle, on ne peut pas s'orienter tout seul. C'est pas possible. Ou alors, peut-être exceptionnellement, mais en général, il vaut mieux avoir un père spirituel qui vous guide et qui. Il faut éviter de.
J'ai des questions courtes comme ça, mais
oui, allez-y.
Est-ce qu'il explique, quand il dit la sagesse de ce monde est folie pour Dieu, ce qu'il entend par sagesse du monde, ou
Ça c'est un grand thème aussi de la pensée patristique, et c'est un thème auquel va se heurter aussi quelqu'un comme Grégoire Palamas au moment du renouveau humaniste à Byzance. Et là, il y a deux aspects, si vous voulez, qu'on peut discerner. D'une part, pour les pères, c'est l'illumination de l'Esprit Saint qui apporte la science et la sagesse. Ce n'est certainement pas le savoir humain. Vous pouvez être un analphabète et être un grand saint. Et ça s'est produit, je crois même en Roumanie, il y a des exemples bien connus de choses comme ça. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Ceci dit, une fois dit ça, vous pouvez être placé dans des situations où vous avez besoin de défendre votre foi. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir recours à des techniques de, comme ne voir pas la masse. Il a recours à Aristote, il a recours à la logique d'Aristote pour défendre ses positions. Les discours apodictiques, ces discours démonstratifs, ça fait allusion à Aristote. Donc oui, si vous regardez les pères de l'Église, Basile, etc. Donc si vous voulez, la science n'est pas mauvaise en soi. Le savoir n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas du savoir que... ce n'est pas par le savoir que l'homme sera sauvé. La différence, si vous voulez, entre le savoir humain et le savoir divin, c'est que le savoir divin sauve. Il transfigure l'être humain, le savoir humain, non. Ceci dit, ça peut être tout à fait utile et les pères en ont fait un grand usage. Il ne faut pas non plus tomber dans l'obscurantisme. Voilà. Mais pour la sainteté de la personne, je vous dis, une personne complètement analphabète peut être un grand saint. Ce sont deux choses complètes. Ce sont deux mondes différents. Et c'est ce que dit saint Paul aussi, hein. Et les phrases que je vous ai citées sont souvent des phrases de saint Paul.
Enfin, une dernière question, parce qu'en vous écoutant, je ne connaissais pas les œuvres, je n'ai pas lu les œuvres de saint Jean Cassien, mais j'ai lu quelque chose sur saint Simon, le nouveau théologien, 11e siècle, 11e, 12e, oui. Et c'est vrai que ça, on retrouve certaines idées. Je ne sais pas si vous, par exemple, cette idée de voir le fait de voir Dieu et de ne pas parler des choses spirituelles sans les avoir vécues et sans une purification intérieure. Donc, ce sont des choses qu'on retrouve peut-être chez d'autres pères aussi.
C'est un lieu commun de la spiritualité. Voilà. C'est un lieu commun de la spiritualité. D'une part, et c'est aussi, si vous voulez, la grosse différence, on peut dire qu'il y a entre la spiritualité orthodoxe et d'autres formes de spiritualité. La spiritualité orthodoxe insiste sur le fait que l'homme peut voir Dieu, peut participer plus exactement à la grâce divine, peut être transformé par Dieu ici-bas, dès maintenant, et selon sa sainteté, selon, etc. Et certains grands saints, comme saint Siméon le théologien, ont eu la vision du Christ, des choses. Bon, c'est ce que va défendre aussi Ivan Palamas. Il n'y a pas deux mondes, si vous voulez. Il n'y a pas un au-delà, où l'homme contemplera, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, après sa mort, et puis un ici-bas où l'homme serait soumis à des impératifs moraux qu'il ne comprend pas très bien. Mais il y a une dynamique profonde et spirituelle, une évolution, une édification du chrétien qui le fait marcher vers le royaume. Voilà. Et c'est cette unité profonde de la spiritualité qui est défendue dans la spiritualité orthodoxe et qui est défendue par les pères. La première conférence, la première homélie, par exemple, de Macaire, dans les homélies macariennes, c'est une description de la transfiguration de l'homme par la présence du Christ dans son cœur. Voilà, donc c'est cette vision, cette expérience qui est défendue tout au long de la spiritualité. Et cette expérience remonte au début du christianisme. Elle est apostolique, elle est chrétienne, c'est l'expérience des pères du désert. C'est tout au long de ce long trajet millénaire, c'est la même expérience. Et lorsque tout d'un coup on se trouve confronté à des gens qui vous disent mais non, Dieu c'est dans l'au-delà, on ne peut pas avoir de contact avec Dieu ici-bas, vous n'êtes plus dans l'orthodoxie.
Oui, j'ai une question de clarification, je ne sais pas si j'ai bien compris. S'il parlait d'une unité unité des sens, des natures, des vertus.
Oui.
Mais je ne sais pas si j'ai bien compris qu'il parlait aussi d'une unité des sens, des passions. Non, ça c'est...
Non, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un enchaînement dans les vertus. Et il dit aussi qu'il y a une unité dans les passions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, je crois... que moi, tout ce que j'essaie de faire ici, c'est simplement d'essayer de le comprendre. C'est que les passions, et c'est ce qu'il explique, sont liées les unes avec les autres. C'est une sorte d'enchaînement. Hein, et que l'on ne peut pas, si vous voulez, progresser vraiment dans la vie spirituelle sans vous attaquer aux passions dès le départ. C'est là où est leur unité. C'est dans leur... Bon, parfois, on a employé un terme un peu compliqué, concaténation. C'est le terme qui est aussi employé par Évagre. Et Évagre dit la même chose. C'est une idée, je crois, mais qui est même au-delà d'Évagre, qu'on pourrait trouver chez certains philosophes. Qu'il y a un enchaînement qui fait que on passe d'une passion. De la lutte contre une passion à un progrès dans l'autre. On ne peut pas... L'idée, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas... On voit des gens qui tout de suite veulent vous parler de l'apophatisme, qui veulent vous parler de la vision de Dieu, etc., etc. Ça, c'est de l'illusion spirituelle. C'est de l'illusion spirituelle. On ne peut pas arriver à cela. On ne peut pas parler de cela. Si l'on n'a pas commencé par pratiquer le combat spirituel. Et ça, c'est fondamental. La notion de combat spirituel est fondamentale, et je trouve qu'on devrait plus insister là-dessus. Là, on arrive dans la période de carême, bon, c'est le bon moment pour en parler, si vous voulez. Et d'ailleurs, on voit bien que l'Église mène toute une éducation, toute une formation au travers du carême. Et c'est axé justement sur ce combat spirituel. C'est pas un hasard si ce sont des grands spirituels, Saint Jean Climac, Marie l'Égyptienne, Grégoire Palamas, bon, qui sont pris comme voilà, des étendards.
Et le père Paisios de Montatus, il parle aussi de cet enchaînement. En fait, il dit que le commandement de toutes les vertus, c'est l'humilité. Et le commandement de toutes les passions, c'est l'orgueil.
Absolument.
Et il dit que, par exemple, si une personne est orgueilleuse, bah, toutes les passions, elles sont dans un enchaînement. Chaque passion, elle se trouve dans une derrière.
Et le commencement de toutes les vertus, c'est l'humilité. Parce que, aussi, c'est l'humilité du Christ qui s'est vidé de sa divinité pour assumer la nature humaine. Et ça, c'est Jean Damascène qui en parle aussi de façon très profonde. L'orgueil, c'est l'orgueil de Satan qui veut se substituer à Dieu. Donc là, on a vraiment les deux pôles en quelque sorte. Et il n'y a pas de... Effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de vie spirituelle ou même de vie chrétienne tout court sans humilité.
Bon, peut-être une dernière question. Toujours parce que Saint Jean Chrysostome parle de l'importance de la présence d'un père spirituel. Est-ce qu'à l'époque, un père spirituel était un prêtre ou ça pouvait être aussi, je ne sais pas s'il parlait de ça, parce que...
Alors ça, c'est vraiment, je crois, un problème qui a vraiment tracassé Cassien. Parce que, et c'est aussi pour ça que dans ses conférences, il va déployer comme ça plusieurs pères spirituels, montrant pour que les moines puissent trouver une forme de direction spirituelle au travers de ses écrits. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve déjà dans l'école d'Alexandrie. C'est le rôle particulier que l'on peut faire jouer à l'écrit. Et par exemple, vous avez un texte très beau de Saint Athanase d'Alexandrie qui est une explication des psaumes dans une lettre à Marcellin. Et il dit en gros, les psaumes vont vous permettre de revivre ce que vous avez vécu au travers des différentes situations qui vous seront présentées. C'est-à-dire qu'il y a dans les psaumes, outre, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire que les psaumes peuvent avoir une action éducatrice, formatrice pour la personne. Et je crois que il va même, Saint Athanase emploie même une expression qui est tout à fait parlante. Il dit les psaumes sont le miroir de l'âme. Et j'ai retrouvé la même expression chez Cassien. C'est-à-dire que Cassien a dû lire, je pense, ce texte de Saint Athanase, ce qui est tout à fait possible, cette lettre à Marcellin. Et je vous conseille, si ça vous intéresse, et c'est vraiment intéressant, je trouve, de vous procurer la petite traduction des psaumes du Père Placide.
Excusez-moi. Moi, j'ai cette traduction, mais du père Arsénie du monastère Rosier. Il est de Constance. Il est de Constance, mais il habite au monastère.
Mais parce que dans l'introduction que fait le père Placide, il parle justement de ce texte de l'épître à Marcellin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement que il y a une tradition dans laquelle baigne aussi Cassien, qui est que le texte n'a pas tout à fait le même statut que celui que nous nous donnons maintenant. Le texte jouit d'un statut d'autorité, en quelque sorte. Nous sommes dans des situations ou dans des cultures où, entre l'oral et l'écrit, où l'écrit n'est pas encore trop diffusé. Et je pense qu'il veut... Et comme Saint Athanase pense que les psaumes ont un rôle d'éducation, ont un rôle de formation, ont un rôle parce qu'en même temps vous projetez donc la situation que vous avez vécue, mais en même temps vous la résolvez dans le texte des psaumes, puisque vous avez une résolution des citations. De la même façon, je pense que dans les conférences, il va proposer au moine un éventail suffisamment large de pères spirituels qui vont incarner différents aspects de manière à ce que le moine puisse se retrouver en quelque sorte et puisse trouver une nourriture et une direction qui lui soit appropriée. Et je crois que c'est une volonté consciente de Cassien. Et je crois aussi qu'il était tracassé, et je le comprends, par le fait que il n'y avait pas beaucoup de pères spirituels en Gaule à l'époque. Vous pouvez bien vous imaginer que ces écrits devaient jouer en quelque sorte un peu le rôle de père spirituel. Et voilà. Donc comment faire pour que... Et donc comme Il connaissait cette tradition alexandrine, il essaye de faire jouer à ses écrits un peu ce rôle-là. Il sait que dans les institutions, il ne peut pas trop aborder la question. Mais il glisse des choses déjà parce qu'il ne sait pas s'il aura le temps d'aller d'écrire les conférences à l'époque. Il le dit lui-même, hein, explicitement. Peut-être que je mourrai avant. Donc, il met dans ces institutions, il met déjà des directions spirituelles, il met déjà des indications qui vont être reprises et développées dans les conférences. Voilà. À la prochaine fois, nous, alors ça va être les conférences. On va commencer les conférences.
Merci.
Je vous en prie. Donc, nous avons encore trois séances, et les trois séances, ça correspond aux trois livres des conférences.